Vraiville PM. Politique.
On les entend, on est en train de réviser la loi sur la
radiodiffusion,
télécommunication et droit d'auteur. Droit d'auteur, c'est celui que j'oublie là. Mais oui, tout à fait.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'est Justin Trudeau que vous entendiez hier au gala de la disque. Celui qui lui soufflait la réponse, c'est son ministre Pablo Rodriguez, secrétaire au patrimoine. Alors, que penser de cette sortie de certains artistes hier, notamment de Yann Perrault, Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour.
Salut Bernard.
Carl Bélanger, consultant, stratège. Bonjour Carl.
Allô, allô.
Paul, vas-y donc sur la disque et je te le dis d'avance, là, je vais te demander qu'est-ce que tu as pensé de la sortie de Yann Perrault, qui, dans la face du PM, dit, à propos de l'achat du fameux pipeline Trans Mountain, il dit à Justin Trudeau, « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est une pétrolière », paraphrasant Gilles Vigneault.
C'est toujours ingrat pour le politicien, parce qu'il n'a évidemment pas l'occasion de répondre. Il n'y a rien qu'une personne qui est dans le micro, dans la situation. Je pense qu'il ne faut pas oublier que l'adversaire de M. Trudeau sur la scène fédérale, son adversaire principal, c'est le Parti conservateur. Et eux, ce qu'ils veulent faire en environnement, c'est rien. Ils veulent absolument rien faire. Ils sont contre toute tarification du carbone. Donc, M. Trudeau, ses adversaires, c'est ceux qui sont pour le pétrole. C'est pas ceux qui veulent le tirer de l'autre côté. Donc, il faut quand même en être conscient. Cela dit, je ne demande pas à Yann Perrault d'être fédéraliste ni d'être libéral. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai critiqué M. Trudeau quand il a nationalisé l'oléoduc Trans Mountain.
Mais je te pose la question, est-ce que c'est le bon endroit pour faire une sortie comme celle-là? Est-ce que, moi, je dois t'admettre, si l'objectif de Yann, que j'aime bien par ailleurs, là, que j'ai connu dans une autre vie, tu sais, je veux dire, c'est un vrai, là, Yann, là, il fait ça par conviction. S'il voulait qu'on parle de lui puis du pétrole, c'est réussi. Mais je me demande juste si c'est le bon endroit, si c'est le bon forum. Tu sais, j'ai comme un petit malaise.
Écoute, moi, je veux pas que les discours deviennent des discours complètement javelisés qui veulent rien dire, mais j'aimerais juste ça qu'on hiérarchise les ennemis de l'environnement puis qu'on commence par s'attaquer aux conservateurs, parce que chaque fois que M. Trudeau veut protéger l'environnement, ben, il est en train de regarder dans son rétroviseur puis il voit que ça, peut-être que ça va lui coûter des voix, parce qu'il faut le rappeler quand même en quelques mots, la nationalisation Trans Mountain, c'est quoi? C'est que M. Trudeau voulait tarifier le carbone. Il constate qu'il a besoin de l'appui des provinces parce que c'est un dossier qui est en partie de juridiction provinciale. Donc, il décide de faire une entente. Il dit aux provinces pétrolières, aux provinces de l'Ouest, oui, vous acceptez de tarifier le carbone avec moi?
Impose une taxe sur l'essence, mettons.
Non, mais je trouve que la taxe, encore là, on ne se sera pas là-dessus, mais c'est qu'on arrête de permettre aux gens de polluer gratuitement. La tarification du carbone, ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment, les gens, c'est l'équivalent d'ouvrir la fenêtre puis de garrocher tes vidanges en l'air puis de laisser les autres payer pour. On arrête ça, on économise avec un système de prix qui fonctionne. Donc, on dit aux provinces, vous acceptez de tarifier le carbone. En contrepartie, je vais m'arranger pour vous faire approuver un oléoduc parce que la hausse des émissions qui vient avec les oléoducs est inférieure à la baisse qui va venir à la tarification du carbone. Bon. Donc oui, il va y avoir un nouvel oléoduc, mais au final, au net, on va avoir baissé les émissions de gaz à effet de serre. Donc ouais, juste être conscient du calcul. Mais encore une fois, moi, je suis un fan de musique, puis j'ai les discours là, qui m'ont toujours intéressé au Grammy, au MTV Music Awards, à la disque, c'est les discours qui étaient insolents des fois.
Plus aussi, politique.
Faut pas demander aux artistes de parler comme s'il avait été conseillé par National non plus. Là.
Carl? Ouais,
moi, je trouve ça correct de passer des messages, surtout que le premier ministre était là. Donc, c'est une belle occasion. Et puis, ça souligne l'incohérence du message de Justin Trudeau par rapport à l'environnement versus les actions qu'il prend. Parce que dans le cas qui nous occupe, Yann Perrault a raison. Hein, le Canada, malgré toute la rhétorique pro-environnementale de Justin Trudeau, c'est un pays producteur de pétrole et qui continue de développer son industrie pétrolière, alors que lorsqu'on veut réduire nos émissions, ben on faudra aller dans la direction inverse. Et là, je veux bien entendre l'argument de Paul que les conservateurs sont pires, mais il y a quand même le NPD qui prend position, lui, fermement contre le développement des industries pétrolières, certainement contre le pipeline Trans Mountain, également contre Énergie Est.
Non, mais c'est un gouvernement, Carl, c'est un gouvernement NPD là, en Alberta. Là.
Oui, mais ça change rien. Là, on parle des partis fédéraux. Tu as raison qu'en Alberta, Rachel Notley développe et veut développer. C'est dans sa cour arrière. C'est l'économie albertaine a été développée presque exclusivement avec l'industrie des sables bitumineux. Puis ça, c'est un problème parce qu'ils sont pas en mesure aujourd'hui de diversifier rapidement. Mm-hmm. Donc, ils ont un prix avec ça. Et bon, dans le cas du NPD fédéral, il y a une chicane, évidemment, avec le NPD de l'Alberta, mais n'en demeure pas moins que pour M. Perrault de sortir là-dessus hier, moi je pense que ça faisait du bon sens parce que il faut rappeler à l'ordre nos politiciens de temps en temps et lorsqu'il y a une tribune comme ça qui est offerte, ben on peut en profiter, j'ai absolument aucun problème avec ça.
Parfait.
Moi, je préfère de mes artistes l'insolence à la platitude.
D'accord. Maintenant, parle-nous un petit peu de sa compréhension qu'il a manifestée, M. Trudeau, hier quand il a dit « je vous entends ».
Quand il nous entend.
Ben oui, il a dit qu'il
entend les artistes.
Il entendait l'appel des artistes.
Ben oui, ben.
Oui, tu veux pas nous parler de ça, Paul?
Oui, écoute, je.
Mais moi, je peux en parler.
Par où commencer?
Tu le crois-tu quand il dit ça ou est-ce que c'est une platitude, justement?
Ben, moi, je pense que son oui, elle est excellente. Je suis sûr qu'il l'entend très bien.
Mais on devrait réécouter la clip, là, pour prendre la mesure de son engagement envers les artistes. Okay. On peut tout réécouter la clip?
D'ailleurs. Larry la cherche.
On les entend, on est en train de réviser la loi sur la
radiodiffusion,
télécommunication et droit d'auteur. Droit d'auteur, c'est celui que j'oublie. Là. Mais oui, tout à fait.
OK. Alors?
Ben, le problème, c'est qu'il n'a pris aucun engagement. Là. La révision est en cours depuis longtemps. C'était prévu à la loi qu'il allait avoir une révision de la loi des droits d'auteur. C'est présentement devant les deux comités. Mais on n'entend pas un engagement ferme du gouvernement d'offrir une nouvelle rémunération, un nouveau modèle de rémunération pour les artistes. Mmh. Évidemment, ça découle de la montée des plateformes en ligne, là, comme Spotify, Apple Music, etc. Mais lorsqu'il y a eu une opportunité pour le gouvernement du Canada de faire quelque chose par rapport aux grands géants d'Internet, ben, le dernier exemple récent, c'est Netflix. Puis Netflix a eu une passe gratis.
Bonne journée. Franchement, là, ça fait 3 ans qu'ils sont là, les libéraux. Là. Pourquoi est-ce qu'ils s'est abrêté autant? Là? Comment ça fait qu'ils n'ont rien fait là-dessus? Là?
Ben, tu te souviens, Mélanie Joly a lancé des chantiers où chaque pierre serait retournée. Mais je pense qu'on a encore de la difficulté avec certaines pierres qui apparemment sont très lourdes et sensibles.
Sérieux?
Écoute,
mais
on pourrait en parler bien en détail, mais je vais essayer de garder ça très simple. Là. Bernard, en musique, en soi, il y a une espèce de discours là, qui veut que ben, les gens ont la culture de la gratuité. Donc, c'est très difficile de leur demander de payer pour quelque chose. Mais ça, c'est de la merde de taureau, c'est de la bullshit. S'il y en a pas de culture de la gratuité, les gens payent.
Est-ce que l'argent va à qui? Les mots merde de taureau?
Oui. L'argent, elle va aux plateformes, elle va aux géants d'Internet, elle va aux faiseux de gadgets. On est rendu avec une économie de tuyaux. Puis c'est les Apple et les Google qui ramassent le mouton. Donc, ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui a le courage politique de rentrer dans le tas, puis de redistribuer l'enveloppe, parce que c'est, tout ça, c'est des gens qui se font du dos, qui se font de l'argent sur le dos des artistes. Écoute, le refrain est connu, mais c'est pire aujourd'hui que ça ne l'a jamais été. Et le dossier le plus sensible politiquement pour lequel j'aimerais que nos gouvernements prennent position, c'est les fournisseurs d'accès Internet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avoir le courage de leur demander de prélever certaines sommes pour qu'elles soient redistribuées aux artistes, à ceux qui créent les contenus et qui rendent en partie l'accès Internet.
Donc, ça veut dire augmenter les abonnements. Ça veut dire augmenter les abonnements.
Ça veut dire le même modèle qui existe avec les câbles distributeurs que tu l'appliques à Internet.
Parce que dans le cas des câbles, il y a le fond des câbles.
Exact, c'est ça.
Mais
le CRTC a ouvert la porte. Le CRTC a changé enfin de position dans un rapport il y a quelques mois où ils ont admis que le modèle des câbles ne fonctionne plus parce qu'en ce moment, les revenus vont vers Internet. Donc, il faut repenser ça. C'est vrai pour la télé. Ça devrait aussi être vrai pour la musique et Internet.
Très bien, Paul. C'était très bien ramassé.
Merci.
Et on s'arrête. Et au retour, on continue avec Paul et Carl. De retour avec Paul et Carl. Carl, parle-nous de Statistique Canada qui veut aller fouiller dans notre compte de banque?
Ben oui, c'est une nouvelle qui a été sortie par Global News vendredi dernier et commence à faire pas mal de bruit. Statistique Canada veut savoir comment vous transigez, quelles sont les transactions que vous faites. Donc, il a demandé à 9 banques de fournir les informations personnelles et les données de transactions d'un demi-million de Canadiens. Le hic, c'est que les Canadiens en question ne le seront pas et ils vont être choisis de manière aléatoire. Il y a une chance sur 20 à peu près que votre compte de banque soit donné à Statistique Canada. Donc, ils veulent toutes les données de transactions financières individuelles, là. Les paiements individuels, les retraits au guichet, les paiements de carte de crédit, les virements bancaires, le solde bancaire, même l'historique des revenus.
Pour faire quoi avec? Excuse-moi.
Ce qu'ils veulent savoir, c'est quelles sont les tendances de consommation, la fréquence à laquelle les Canadiens Canadiens dépensent, par exemple, de l'argent à l'extérieur du pays pour des achats en ligne, des achats pour de la musique, par exemple, on en parlait justement il y a quelques minutes. Donc, ils veulent voir quelles sont les tendances, ils veulent avoir des relevés statistiques pour suivre l'évolution des dépenses des ménages. Ils veulent pas, ça les intéresse pas de savoir particulièrement ce que Bernard Drainville, par exemple, dépense à tous les jours.
Non, je comprends.
Mais ils veulent le portrait type. Le problème, c'est que les banques n'ont pas le choix de donner cette information-là à Statistique Canada.
Pourquoi? Pourquoi?
Parce que la loi sur la statistique autorise le statisticien en chef à exiger la divulgation de tout document ou archive conservé dans tout département, de tout bureau, corporation, entreprise ou organisation municipale. Ils ont regardé avec la loi sur la protection des informations personnelles. Et là, le commissaire se penche là-dessus. Mais pour l'instant, le statisticien en chef semble avoir le droit d'aller fouiller dans ces données-là. Et un des problèmes, c'est que ça va dans une grande base de données. Ils disent que les données vont être anonymisées. Mais lorsqu'ils les reçoivent, évidemment, il y aura les informations personnelles, incluant le numéro d'assurance sociale. Donc, ça soulève des inquiétudes, à savoir... Qu'est-ce qui pourrait arriver en cas de fuite? On a eu des problèmes dans le passé. Qu'est-ce qui pourrait arriver de ces données-là? Et pourquoi le Statistique Canada a besoin d'avoir toutes ces données-là directement des banques plutôt que par un sondage? Et une des raisons, c'est que les gens remplissent plus les sondages, ils remplissent plus les enquêtes, participent plus à ça. Et donc, le Statistique Canada a décidé de prendre les grands moyens pour obtenir cette information.
OK, mais jusqu'à date, les banques ont refusé de donner l'info exacte?
Effectivement. Pour l'instant, les banques on proteste. Ils veulent pas donner les informations-là. Il y a une inquiétude de la part des banques, d'une part, sur des informations très sensibles, très confidentielles, et d'autre part, c'est que, puisque ce sont pas toutes les institutions financières qui sont visées, les banques ont peur de perdre des consommateurs, des gens qui pourraient aller vers des plus petites institutions financières ou simplement transiger avec d'autres types de monnaies, par exemple les crypto-monnaies. Et donc, ils veulent protéger évidemment leurs consommateurs, mais également leur profit en gardant ces consommateurs-là.
Donc, quand tu parles de 9 banques, là, est-ce que tu parles de 9 institutions financières qui pourraient inclure Desjardins ou si tu parles vraiment de 9 banques, ce qui veut dire que les clients de Desjardins n'ont pas à s'inquiéter?
Écoute, l'article de Global, lorsqu'il est sorti, parlait de 9 banques, mais ils ne sont pas identifiés. Ce que je peux dire, c'est que la personne qui a réagi, c'est la porte-parole de l'Association des banques, mais il faudrait vérifier avec Desjardins si Statistique Canada leur a demandé, parce que effectivement, j'ai pas cette information-là à ce moment.
C'est parce que la loi sur les banques relève du gouvernement fédéral, alors que la loi sur les coopératives relève du Québec. Donc, c'est pas impossible que Desjardins soit exclu de l'échantillonnage. C'est pas impossible.
C'est pas impossible. Faudrait voir avec eux.
OK. Vite, parle-nous de cette élection partielle que Justin Trudeau a déclenchée pour la circonscription. Là, on la nommera pas, là, mais en Ontario, là où il y a le député conservateur Gord Brown qui est décédé subitement. Ce qui est très curieux, c'est que Justin Trudeau avait l'occasion aussi de déclencher une partielle dans les 3 autres comtés qui sont vacants, Outremont, York Simcoe, mais aussi Burnaby Sud, dans la banlieue de Vancouver, là où Jack Meetsing veut se présenter. Et là, Trudeau a décidé de pas ouvrir ces comtés-là, les 3 que j'ai nommés, et donc de pas ouvrir la porte à une élection de Jack Meetsing, ce qui lui permettrait peut-être d'être élu député et de devenir, d'être présent en chambre et d'avoir un siège en chambre.
Exact. Et donc, c'est très inhabituel. Habituellement, lorsqu'il y a des sièges vacants, des élections partielles sont déclenchées pour l'ensemble des comtés. Mais là, Justin Trudeau a décidé de garder cette carte-là dans sa manche. Et écoute, le NPD là déchire sa chemise là-dessus. Ils sont apoplectiques. Jack Meetsing, on accuse les libéraux de retarder son entrée aux communes. On dit que ça n'a pas de bon sens, qu'il y a 300 000 Canadiens là, de ces comtés-là qui ne seront pas représentés parce que les libéraux jouent des jeux politiques. Du côté du Parti libéral, on réplique que Jack Meetsing aurait pu se présenter dans les 7 autres partiels qui ont eu lieu depuis qu'il est chef. Le problème, évidemment, c'est que dans ces 7 partiels-là, le NPD a eu 8% de moyenne.
Oui, c'est ça.
Donc, c'était pas les chars. Donc, évidemment, Burnaby Sud, c'est un comté néo-démocrate. Jack Meetsing pourrait se présenter là, pourrait compter sur l'appui, par exemple, d'une forte population sud-asiatique. C'est très inhabituel. Puis, surtout dans le cas d'un chef, habituellement, dans le passé, lorsqu'un chef voulait se présenter dans un comté, le parti qui gouvernait il faisait preuve de bonne volonté déclenchait.
Carl, ça a été à géométrie variable, cette affaire-là. Si tu veux, il nous manque de temps pour en parler, mais demain, je vais te soumettre ma petite hypothèse, moi.
J'ai hâte d'entendre ça.
Il y a un petit calcul politique crasse en dessous de ça, et on en discute demain, OK?
C'est bon.
Carl Bélanger, consultant en communication, stratège politique. À demain.
Bye.
Paul Journet, éditorialiste à La Presse. T'as été tranquille dans la deuxième partie, mon
pote. J'ai déjà hâte à demain, Bernard.
T'as déjà hâte à demain, hein?
Exact. Mm-hmm. Je compte les dodos, il n'y en a rien qu'un, mais bon.
OK. À demain, alors. On s'arrête. Au retour, on va vous parler notamment de cette extraordinaire histoire de Hugues Leblanc, amputé des quatre membres, mais il continue, il lâche pas.